les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Ronan Raffray, professeur de droit à l'Université de Bordeaux, nous dessine les contours du droit de la vigne et du vin. 5e épisode. Le rosé et le droit, quelle réglementation pour le vin de l'été ?
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass.
Des fraises, des cerises et le baiser d'un ange au printemps. Une chanson superbe de Lee Hazlewood chantée en duo avec Nancy Sinatra, mais une description organoleptique peut-être un peu courte pour ce vin de l'été, que l'on imagine bien sûr californien, probablement un vin rosé. Pour clore cette série sur le droit de la vigne et du vin, et puisque l'on annonce enfin le retour du soleil, j'ai choisi de parler de la boisson de l'été, le rosé, qui connaît un succès phénoménal auprès des consommateurs et, je l'espère, pas nécessairement coupé avec du jus de pamplemousse. Pour préparer ce format, je me suis notamment appuyé sur un rapport de 2015 de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, qui insiste sur deux phénomènes intéressants. Tout d'abord, l'internationalisation surprenante de la consommation de vin rosé, plus 750% par exemple pour la Suède entre 2002 et 2014. Ensuite, un succès croissant auprès des jeunes, mes chers auditeurs, je l'espère toujours avec modération. En focalisant notre attention sur ce type de vin, je vais tenter d'illustrer la complexité de la réglementation viticole et sa passionnante densité, tout en mobilisant des éléments précédemment présentés dans cette série consacrée au droit de la vigne et du vin. Et pour ce faire, je vais répondre avec plaisir aux trois questions posées par nos auditeurs.
Bonjour, je m'appelle Léa, je viens de Massy. J'ai entendu parler du vin bleu. Va-t-il remplacer le vin rosé sur les tables des cafés ?
Bonjour, je m'appelle Kevin, j'habite à Montrouge. Est-ce que la famille Portalis du Château Prado a un lien avec le rédacteur du Code civil du même nom ?
Oui, bonjour, c'est Claudie de Melun. Je me demandais, le vin rosé, c'est bien un cocktail vin blanc-vin rouge ?
Comment obtient-on du rosé ? Il existe plusieurs procédés, mais globalement, il s'agit de laisser le jus en contact avec la peau des baies et de faire ensuite, après séparation, fermenter ce jus légèrement coloré. On peut donc obtenir un vin rosé par pressurage, qui est l'opération par laquelle on presse directement les grappes avec une macération très courte des peaux, le temps du pressurage, pour obtenir la teinte rose clair que l'on désire. Le jus, séparé des peaux, est alors mis en cuve pour fermentation. On peut aussi procéder par macération pelliculaire. Le rosé de macération pelliculaire est élaboré quant à lui à partir de raisins noirs mis en cuve directement avec une macération plus ou moins longue, comptée entre 2 et 24 heures. Le jus, plus foncé que celui obtenu par pressurage, est ensuite séparé et remis en cuve pour fermentation. Quand on parle de rosé de saignée, on fait référence à la confection de rosé à partir de raisins mis en cuve pour produire du vin rouge. Après quelques heures de macération, une partie du jus est transférée dans une cuve à part pour l'obtention du vin rosé, qui sera également plus foncé que le rosé obtenu par pressurage. On laissera l'autre partie macérée pour obtenir un vin rouge. De cette manière, on aura saigné la cuve. On peut aussi recourir à l'assemblage de moût ou de vin blanc et rouge, c'est-à-dire procéder par coupage. Parler de rosé en droit pose une difficulté méthodologique qu'il faut absolument porter à la connaissance de nos auditeurs. Dans cette matière, le rosé ne bénéficie pas d'une définition unique et partagée, ce qui montre peut-être le désintérêt des pouvoirs publics à l'égard de ce type de vin, longtemps considéré comme un vin bas de gamme tout juste bon à accompagner une grillade dans l'éblouissante lumière de l'été méditerranéen. Pour l'Organisation internationale de la vigne et du vin, le vin se définit comme le produit de la fermentation alcoolique complète ou partielle de raisins frais, foulé ou non, ou de moût de raisin, mais l'OIV ne possède pas de normes analytiques spécifiques qui distinguent en fonction de la couleur du vin. S'agissant maintenant du règlement 1308-2013 portant organisation commune de marché, il ne contient pas de dispositions spécifiques au vin rosé. Enfin, en matière de pratique œnologique, le rosé est parfois assimilé au vin rouge, comme en matière de coupage, cette pratique qui consiste à mélanger des vins et à laquelle, il faut bien dire, la législation n'est pas très favorable. Le vin rosé pose précisément ce problème particulier, économique et juridique, celui de son obtention par coupage, c'est-à-dire par mélange d'un vin rouge et d'un vin blanc. Pour répondre à cette interrogation, il faut consulter le règlement 607-2009 de la Commission du 10 juillet 2009 qui fixe certaines modalités d'application du règlement Organisation commune de marché en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent. S'agissant des vins d'appellation d'origine protégée ou d'indication géographique protégée, le droit de l'Union européenne renvoie implicitement au cahier des charges des appellations. En d'autres termes, si le vin est produit sous appellation d'origine protégée ou sous indication géographique protégée, c'est le cahier des charges qui doit déterminer les modalités de l'obtention d'un vin rosé. Les États membres conservent toutefois la possibilité de prévoir des règles plus sévères. C'est ainsi qu'en droit français, l'article 17 du décret du 4 mai 2012, relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, dispose que pour les vins produits en France, en général, le coupage d'un vin blanc et d'un vin rouge ne peut produire un vin rosé, sauf lorsqu'il s'agit de vin mousseux ou pétillant. On pratique donc le coupage en champagne, mais ce n'est pas la seule pratique d'élaboration du champagne rosé. Le cahier des charges de l'appellation champagne prévoit en effet que les vins rosés sont élaborés soit à partir de vins de base issus de pressurage direct, soit d'une macération, soit d'une saignée, soit par assemblage, avant tirage, de vins blancs et rouges. En revanche, dans les discussions qui ont précédé l'adoption du règlement de 2009 sur les pratiques œnologiques, la Commission européenne avait fait part de sa volonté d'autoriser le coupage pour les vins sans indication géographique, ce qu'on appelle finalement les vins de table, en se fondant notamment sur le fait que l'Organisation internationale de la vigne et du vin acceptait cette pratique. Le projet, vous l'imaginez bien, était fortement soutenu par le négoce, qui voyait là un moyen de profiter du succès du vin rosé auprès des consommateurs, en coupant avec un peu de vin rouge du vin blanc bas de gamme, difficile à écouler. Le coupage devait se faire sur la base de 98% de vin blanc et de 2% de vin rouge. Ce projet a heureusement rencontré la résistance de certains pays qui craignaient que cet accueil réglementaire de la pratique ne nuise à la réputation du vin rosé traditionnel et au travail qualitatif accompli, notamment en France. La Commission a reculé. Dans le huitième considérant de ce règlement sur les pratiques œnologiques, il est donc rappelé que le coupage est une pratique œnologique courante et que compte tenu des effets qu'il peut avoir sur la qualité des vins, il est nécessaire d'en préciser la définition et d'en réglementer l'usage pour éviter des abus et pour assurer un niveau élevé de qualité des vins compatible avec une plus grande compétitivité du secteur, la qualité, toujours la qualité. Il est aussi prévu que cet usage doit être réglementé plus particulièrement pour certains vins qui ne sont pas soumis aux dispositions d'un cahier des charges, c'est-à-dire les vins sans indication géographique, les vins de table. L'article 8 du dit règlement dispose en conséquence que le coupage d'un vin blanc sans AOP IGP avec un vin rouge sans AOP ou IGP ne peut pas produire un vin rosé, à moins que ce coupage ne soit destiné à l'élaboration d'un type particulier de vin pétillant. Un auditeur m'interrogeait également sur les liens entre Portalis, célèbre rédacteur du Code civil, et le rosé. Portalis, le Provençal, venait effectivement d'une famille de producteurs de vin, laquelle est toujours propriétaire du château Prado à Bandol, qui produit des superbes crus, en rosé comme en rouge, et qui peut donc s'enorgueillir de cette glorieuse ascendance. En consultant le site internet de la propriété, on apprendra que ce sont les descendants qui ont réhabilité le domaine et qu'ils ont aussi porté, avec l'appui du baron Leroy, dont nous avons déjà parlé, la reconnaissance de l'appellation Bandol. Pour finir sur cet exposé à orientation chromatique, et toujours en lien avec les pratiques œnologiques admises, intéressons-nous à une autre couleur, le bleu, pour répondre à la dernière question qui a été posée. On a vu fleurir, il y a 2 ans, un vin bleu commercialisé par un négociant du Sud-Est. S'agissant d'une boisson obtenue par la fermentation de raisins frais ou du jus de raisins frais, le produit pouvait prétendre à la qualification de vin. Pouvait, car encore fallait-il que ce vin, produit en Espagne, doivent sa couleur à des pratiques œnologiques admises et non à l'ajout de colorants. Le négociant s'est maladroitement justifié par la présence en masse d'anthocyanes présents dans la peau de raisin rouge, dans lesquels le producteur espagnol ferait passer un vin blanc de cépage chardonnay. La réponse soulève deux nouvelles questions. D'une part, les œnologues qui se sont penchés sur la question considèrent qu'il est impossible que les anthocyanes puissent résister à l'acidité du vin, qui les fait en principe tourner au rouge, et suspectent l'ajout d'un colorant non autorisé. D'autre part, un tel procédé s'apparenterait à du coupage, dont on a vu qu'il était interdit par le droit de l'Union européenne. Dès lors, dans les deux cas, le produit ne pourrait prétendre à la dénomination de vin. Vous remerciant pour votre écoute, je vous souhaite à tous une excellente rentrée.
Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.